foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Nader Vahabi. Bonsoir Nader.
Bonsoir Benoît.
Merci d'avoir accepté l'invitation à venir parler sur notre radio chrétienne, de votre parcours, de vos convictions.
C'est moi qui vous remercie d'avoir m'invité, je vous en prie.
Vous êtes sociologue, nous sommes connus au CADIS, le Centre d'analyse et d'intervention sociologique.
En 2010, oui.
Alors, en fait, vous venez d'Iran et, en fait, aujourd'hui, vous venez à Paris et malgré toutes ces difficultés de transport, vous êtes là à Toulouse parce que vous êtes aussi à l'Université Jean Jaurès dans le laboratoire du CNRS de dynamique rurale.
Dynamique rurale qui est attaché à l'IST, laboratoire interdisciplinaire de la société et des territoires.
Alors, en fait, vous êtes spécialiste des migrations, de la diaspora, diasporas iraniennes.
Oui, bien sûr.
Et vous allez nous parler, en fait, de votre parcours, parce que l'un de vos premiers livres... En fait, vous ne saviez pas un mot de français lorsque vous êtes venu en France.
C'est-à-dire, mon parcours, il est lié à la révolution iranienne de 1979. Et nous avons participé activement à la révolution, mais toutes les grandes révolutions, comme toutes les grandes révolutions, la révolution française, la révolution indépendante des États-Unis, la révolution industrielle, la révolution bolchevique, et au bout d'à peu près un an et deux ans, la révolution est basculée dans la répression, c'est ce qu'on dit après le printemps de la révolution iranienne de 1979. Et à partir de là, il y a eu une forte répression. Tous les partis politiques qui ont participé activement à la révolution, celle-ci s'est retournée contre ces acteurs sociaux, politiques, culturels. Hop, il y avait une exode massif des exilés iraniens vers les pays limitrophes, vers l'Europe, vers les États-Unis. En ce qui concerne moi-même, j'ai quitté l'Iran en 1982 et j'ai pris après plusieurs pays. Finalement, je me suis installé définitivement en 1994 et je ne savais du tout, même pas un mot en langue française parce que le projet d'exil n'était pas prévu du tout dans mon projet initial en Iran.
Parce qu'au départ, vous étiez un scientifique.
J'ai fait mes études à l'université de Shiraz. J'étais là-bas et après la fermeture de l'université suite, soi-disant comme la révolution culturelle de Mao en Chine, on a eu une 1980. Et il y a eu une attaque par les milices, c'est ce qu'on dit, pro-gouvernementales, Hezbollah, Basij, ils ont attaqué l'université et ils ont fermé l'université avec le motif soi-disant que les universités ne sont pas islamiques, il faut qu'on change le contenu, etc., etc. Pendant deux ans et demi, presque trois ans, l'université était fermée et il y a eu un nombre important d'enseignants, de chercheurs. Ils ont pris le chemin de l'exil.
D'ailleurs, vous avez écrit un de vos nombreux livres, dont nous parlerons plus tard, sur Mossadegh.
Mossadegh, c'était en fait un des... pour être dans la chronologie de mon livre, Mossadegh, c'était un cours d'enseignement à INALCO, Institut National de la Langue Orientale. Pendant deux ans, j'étais chargé de cours dans cette université. Là, je constatais qu'il y a un nombre important de livres sur Mossadegh en langue anglaise, mais j'étais intéressé par 28 mois de gouvernement de Mossadegh, qu'il a pris le pouvoir en 1951 avec un parlement démocratiquement, mais deux ans plus tard, il y a eu un coup d'État en connivence avec le CIA et l'Angleterre. Ils ont fait un coup d'État et Mossadegh, après ce coup d'État, il était emprisonné, etc., etc. Mon premier livre, c'était l'Iran de Mossadegh pendant 28 mois de son gouvernement. Mon deuxième livre, c'était sa trajectoire. J'étais intéressé pourquoi Mossadegh, en 1909, il est venu ici à Paris pour reprendre ses études. Quelque part, c'était une curiosité personnelle qui reflétait ma trajectoire personnelle pour reprendre mes études en France. Voilà, les deux livres.
D'ailleurs, vous avez aussi évoqué votre parcours personnel et oui. On en revient au thème de notre émission. Oui. Ma foi, mes convictions, ma foi, j'y crois. Mais bon, juste un mot, parce qu'en 2013, vous avez écrit justement le parcours, les mémoires de votre parcours migratoire.
Vous avez, mon cher Benoît, vous avez évoqué qu'on s'est vu au Cadiz. Effectivement, c'était une occasion. Avec cette occasion, je fais connaissance avec vous en tant qu'enseignant, en tant que maître de conférence à l'Université de Toulouse. Et là, après un nombre important de mes livres en langue française, Sociologie de mémoire déchirée, Les récits de vie des exilés iraniens, une enquête sociologique en Belgique à l'Université de Liège. Là, j'ai proposé, et vous avez accepté avec l'ingénieuse, qu'être mon directeur d'études pour acheter habilitation à diriger des recherches. Ce livre dont vous êtes en train de parler, ce parcours migratoire, c'était une synthèse de mes ensembles, les livres, et si vous voulez, pour dire très, très brièvement, la construction de ma carrière scientifique en France après l'installation définitive en France. Donc, ce livre-là était quelque part, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, et c'est ce qu'on dit, le concept de carrière migratoire. À partir du moment où on quitte son pays, on installe dans un autre pays, comment on peut-on intégrer ou socialiser dans le pays hôte? C'est ce que j'ai essayé de montrer. Maîtrise de la langue française qui rentre notre cheveu blanc. Et puis ensuite, chercher un logement. Ensuite, à partir de là, maîtriser après ces deux allemands, essayer de construire sa carrière scientifique en France. C'est ce que j'ai essayé de montrer. Une synthèse à la fois mes ouvrages et mon parcours personnel.
Parce que les émigrés sont aussi des immigrés et il faut qu'ils changent de culture.
Ils changent de culture, c'est-à-dire que là, votre question pose la problématique générale de la sociologie de la migration. À partir du moment où, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans un de mes ouvrages, c'est ce qu'on dit quatrième socialisation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que à partir du moment où, en règle générale, chez sociologue, on socialise deux fois. La première fois, c'est la famille. La deuxième fois, lorsqu'on prend le chemin de l'école, c'est ce qu'on dit socialisation secondaire, ou on peut dire pour éducation, c'est-à-dire qu'un être humain, à partir de 6 ans, 7 ans, selon les pays, il prend le chemin de l'école pour apprendre et éducation. Et le troisième, lorsqu'on cherche un travail. Quatrième socialisation, c'est ma proposition. Lorsqu'un être humain change son pays, lorsqu'il vient dans un autre pays, qu'il n'est pas né dans son pays-là, il faut qu'il fasse des efforts sur le plan culturel, sur le plan intégration, etc., etc., afin qu'il puisse bien intégrer dans la société accueille. C'est ce que j'ai essayé de montrer à travers de mon concept quatrième socialisation. S'apprendre la culture, s'apprendre la langue, s'apprendre les associations dans la société haute, s'apprendre aussi la manière dont on peut s'intégrer dans cette société.
Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas trop l'Iran, nous avons des stéréotypes. Nous allons revenir sur une phrase que vous aimez bien. Comment peut-on être persan avec Montesquieu? Et vous avez un regard d'étranger, qui n'est pas celui de Marianne Satrapi, avec des caricatures et des dessins, mais qui est à travers une série de réflexions philosophiques, anthropologiques.
Alors, cette question-là est revenue vers moi avec d'abord deux articles. J'étais intéressé par pourquoi les Iraniens sont intéressés par la France. Et historiquement, ça remonte à quelle époque? Je suis remonté dans le temps, je suis arrivé en 1720, lorsque Montesquieu a rédigé un petit article s'intitule « Comment être personne ». Trois siècles plus tard, et presque quatre siècles, je suis revenu sur la même question. Pour répondre à ces questions-là, j'ai fait une étude socio-historique. Je suis allé contextualiser au début du 19e siècle. Il y avait un contexte particulier. L'Iran a perdu deux guerres. La guerre 1813, la deuxième guerre 1828. Après la perte de ces deux guerres, qu'il était en une partie liée à la présence des empires coloniaux, la Russie au nord, l'Angleterre au sud de l'Iran, il y avait une volonté politique en haut, surtout par le prince Abbas Mirza. À partir de 1835, il a dit « Maintenant, le moment est arrivé, on va moderniser en Iran en allant vers un autre pays qui n'a pas, si vous voulez, un œil colonial en Iran ». Et alors, à partir de là, donc, il y avait, comment dire, surtout l'Europe précédente, Mahmoud Shah, 1835 jusqu'en 1850, et il a fait venir une enseignante, une Française, prof de langue française, elle s'est installée en Iran, il a fait de souche familiale, et à partir de là, petit à petit, d'abord a commencé en 1848, quatre étudiants, et ainsi de suite, les étudiants sont venus ici en France, si bien qu'à la fin du 19e siècle, la langue française est devenue langue administrative pour tous qui voulaient travailler dans l'administration au haut niveau, c'est-à-dire les ministres, les PDG et les hauts responsables de l'administration iranienne.
Alors, toutes ces remarques intéresseront beaucoup les historiens. Je pense qu'on connaît aussi très mal l'Iran et sa culture à travers ce qu'on pourra dire peut-être les roses d'Ispahan ou les tapis persans, mais surtout il y a la caricature du chiisme et du sunnisme. Peut-être on va laisser un petit peu cette question pour après la plage musicale que vous nous avez préparée, parce qu'il y a une culture de l'art, musique, et donc vous nous avez apporté un beau morceau d'anthologie. D'accord. Que vous pouvez nous présenter
après la musique.
Après la pause musicale.
Après la pause musicale.
Thank you.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et ce soir, avec Nader Bahabi, vous êtes sociologue, vous êtes spécialiste des migrations, enseignant-chercheur à Paris et également à Toulouse, Jean Jaurès, dans le cadre de la dynamique rurale. Alors, vous nous avez apporté un morceau de musique classique, traditionnelle. On parlait de la modernité, mais c'est aussi toute la tradition et la culture de l'Iran.
Oui, c'était, si vous voulez, c'était la musique s'intitule L'oiseau de l'aube.
L'oiseau de l'aube.
L'oiseau
oui.
de l'aube, Murgh Sahar en iranien, qui a été chanté par un grand, grand chanteur, musicien iranien, Mohammad Reza Shajarian, qui nous a quittés il y a 2 jours. C'est un grand, grand classique iranien. Ça reflète dans la période révolutionnaire de 1908, où la révolution constitutionnelle de 1906, après 2 ans, la révolution est tombée dans la répression. C'est ce qu'on dit, la période courte ou les despotismes courts. Cette chanson reflète cette période-là, qu'il donne l'espoir, qu'il donne l'idée de se battre contre ce despotisme. Et après 2 ans, il y a eu, après 1 an d'une guerre civile, finalement, la victoire des parlementaires a été à Téhéran. Donc voilà, cette chanson reflète cette période-là. Pour revenir à votre question sur la culture, bien entendu, il y a des préjugés sur l'Iran en tant qu'un pays que la religion chiite est la religion dominante. Or, chez les Iraniens, il n'y a pas de différence entre, en ce qui concerne les chiites et les sunnites, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas d'eau, si vous voulez, c'est ce qu'on dit, bien sûr, historiquement, il y a un débat entre les historiens sur la différence entre les chiites et les sunnites. Juste après la mort du prophète, il y a eu un débat sur la succession. Il me semble que c'est un débat historique, ça reflète de la compétence des historiens, mais en ce qui concerne actuellement en Iran, non, je ne vois pas trop cette différence. Bien entendu, la minorité sunnite, parfois, ils ont reçu la répression par le régime actuel, mais en gros, ça se passe très bien entre les deux populations. La population sunnite, ils sont plus vers l'ouest de l'Iran, le département Sanandaj, Kurdistan, cette partie ouest de l'Iran, une partie aussi un petit peu vers l'est de l'Iran, vers Baluchistan, etc. Mais en tout cas, en ce qui concerne le rapprochement entre deux cultures, je ne vois pas une différence entre le sunnisme et le chiisme.
D'ailleurs, à côté de vos travaux comme militant des droits de l'homme, je crois que vous faites partie aussi du groupe du GAIC, du groupe d'amitié islamo-chrétien, et on pourrait dire qu'il y a des synagogues et des églises en Iran. Il faut distinguer l'aspect géopolitique qui souhaite que l'État d'Israël, parfois certains, disent que l'État d'Israël n'a pas le droit d'exister, mais il y a des accords de l'ONU. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans les questions que je pose à mes interlocuteurs, c'est ma foi, j'y crois. Est-ce que Dieu, est-ce que un point de vue de la transcendance peut nous aider dans des rapprochements entre les hommes, entre les cultures?
Je pense que c'est une très, très bonne remarque. On a besoin de ça. On a besoin de ce rapprochement. Je pense que la religion chrétienne, juive, etc., en Iran, sauf hélas un petit peu la religion baï qui a été réprimée sévèrement par le régime actuel, mais les autres religions, ils sont libres en Iran. De temps en temps, on voit des accrochages entre certains militants avec le pastaran, mais en tout, je pense que, quelle que soit la société iranienne au Moyen-Orient, on a besoin de cette intersection entre les 3 religions monothéistes pour rendre la paix au Moyen-Orient. Il me semble que la position de l'ancien président, qui est parfois très, très, pris au premier plan, comme quoi, quand on voudrait, attaquer l'Israël, etc., c'est complètement faux. C'est complètement faux. On a besoin de la paix dans cette région-là, avec une coexistence avec différents pays, y compris l'État israélien.
Surtout d'ailleurs, ce qui vous intéresse, c'est le début, le Big Bang, le début de la création du monde. Alors, oui. La Bible, elle a 2 ou 4 000 ans. Oui. Le Coran, il a quelques siècles. Oui. Qu'est-ce que c'est que cela par rapport à l'immensité de l'univers? Et qu'est-ce que l'homme dans tout cela, pour reprendre la phrase de Pascal?
Oui.
C'est une philosophie du monde que vous nous apportez, non pas seulement à travers les migrants, mais à travers toute cette philosophie, et d'ailleurs de l'accueil du migrant. C'est
bien
votre
sûr.
Dernier livre,
bien
je
sûr,
crois.
Bien sûr. C'est-à-dire que là, on entre dans la problématique d'hospitalité. C'était toutes les recherches philosophiques. Philosophiques que c'était objet de mon dernier livre. Comment peut-on construire une société autour de l'étranger? Suite à mes 2 ouvrages précédents, la crise de l'accueil de 2015
en Europe,
et ensuite l'ouvrage suivant que je suis intervenu en particulier sur l'amour en Méditerranée, et 3e ouvrage, j'étais intéressé par les valeurs de l'Europe. Pour répondre aux valeurs d'Europe, j'étais intéressé par aller dans le temps, j'étais intéressé par le concept de l'accueil chez Montaigne, ensuite chez Voltaire, dans le Candide, et 18e siècle, je suis particulièrement revenu sur le concept conscient de Kant, sur le droit des visites, et finalement ce livre a enchaîné en 19e et 20e siècle avec l'hospitalité absolue. La différence entre Emmanuel Kant et Jacques Rousseau, avec Derrida, était la suivante. Kant accepte un séjour provisoire. Or, Derrida, il va plus loin. Il dit que l'accueil d'un étranger dans un pays, c'est un aspect ontologique. C'est-à-dire, dès qu'une personne vient devant votre porte, et il faut accepter sans demander quelle est sa religion, sans demander il maîtrise la langue, etc. Ça rejoint la hospitalité auprès des 3 religions monothéistes, c'est-à-dire Moïse, Jésus et le prophète Mahomet, qu'ils ont, quand on regarde leur trajectoire, je suis un sociologue, j'ai un regard objectif sur la sociologie de la religion. Quand on regarde leur parcours, on s'aperçoit que leur but dans la société, c'était une société, aller vers une société de paix, que tout le monde vive dignement par rapport à leur vie quotidienne.
Mais il faut interpréter ces textes que certains disent sacrés et que vous, vous relativisez avec des textes d'ordre philosophique ou oui. Tout simplement avec, on va dire, une morale naturelle. Certains contestent ce terme, surtout chez les sociologues.
Oui, certains contextes, sans doute. C'est le rôle de sociologue, c'est le rôle de théologien, c'est pas mon rôle. Moi-même, en tant que sociologue, j'ai un regard plutôt objectif, regard plutôt historique sur l'avènement des grandes, grandes religions monothéistes qui, me semble, ils sont venus lorsque les sociétés étaient en crise. Lorsqu'ils vous ont montré un bon chemin, le chemin de la paix, le chemin de vivre ensemble.
Et nos sociétés sont actuellement aussi en crise avec le coronavirus. Et vous travaillez sur ces questions des chiffres. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire pour nous renvoyer au sens de la vie?
Oui. Avec le coronavirus, donc dès le début, effectivement, pendant la période de confinement, c'est-à-dire mois de mars, avril, mai, j'ai fait, des chroniques à travers les chiffres. On a constaté qu'actuellement, on a perdu à peu près 1 100 000 personnes dans le monde.
Et votre travail maintenant, c'était un optimisme malgré tous ces décès.
Certains disent que ce qu'on a vu, c'est à la fin du monde, etc. Je ne crois absolument pas ce genre de regard, un regard pessimiste, complètement pessimiste. Justement, cette période de coronavirus a montré qu'on a besoin de plus de solidarité. L'enfer n'est pas l'autre. Et l'autre, il est un être humain. Il faut qu'on accepte notre prochain humainement parce qu'il a le même droit que moi.
Donc c'est dans ce travail de solidarité pour lutter contre les tensions mondiales ou dans les tensions personnelles que vous nous invitez à travers tous vos travaux.
Oui, c'était surtout c'était la conclusion de mon dernier livre, c'est-à-dire comment peut-on accepter une société autour de l'étranger. L'accueil des migrants étrangers, ce n'est pas un problème un problème l'accueil de l'étranger immigré, etc., ça fait partie de grandes, grandes transformations sociétales à la fin du XXe siècle et début du XXe siècle.
C'est tout ce que vous nous apprenez par vos travaux. Merci Nader.
Merci à vous.
Merci aussi à Christophe pour la réalisation.
C'est très gentil. Merci à vous.